Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. L'écrivain et éditeur Józef Skorecki est mort à Toronto à l'âge de 87 ans. Le ministre des Finances prévoit une contraction du PIB en 2012 pouvant aller jusqu'à 2%. Le ministre de l'Éducation promet de résoudre le problème de la mauvaise gestion des fonds européens d'ici le mois d'avril. Le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, a déclaré à la radio tchèque qu'il prévoyait une contraction du produit intérieur brut tchèque allant jusqu'à 2% en 2012 en raison de la crise de la dette en zone euro. Le scénario le plus probable sur lequel nous travaillons prévoit une stagnation du PIB ou sa contraction de 1% voire de 2%, a-t-il déclaré à l'antenne de la radio publique. Une contraction du PIB allant jusqu'à 2% en 2012 entraînerait, selon le ministre, un recul des recettes budgétaires de 30 à 50 milliards de couronnes, soit environ 2% des dépenses prévues. L'écrivain et éditeur tchèque Josef Skvoretsky est décédé ce mardi à Toronto, au Canada, des suites d'un cancer. Grande figure du monde littéraire tchécoslovaque et tchèque du XXe siècle, Josef Skvoretsky a émigré avec son épouse, l'écrivaine et actrice Zdena Skvoretska, en 1969 à Toronto, où le couple a fondé 2 ans plus tard la célèbre maison d'édition 68 Publishers. Cette dernière publiait des auteurs interdits, dont la Tchécoslovaquie communiste qui ne pouvait circuler dans le pays concerné. Samizdat. Josef Skvoretsky est auteur de plusieurs romans et nouvelles à succès, dont Les Lâches, Le Bataillon blindé, Une chouette saison ou encore La légende des Meuks. Certaines de ses œuvres ont également été adaptées au cinéma. Une éventuelle suspension des fonds européens dont bénéficie le secteur de l'éducation a été au cœur de la rencontre ce mardi entre le ministre de l'Éducation Josef Dobeš et le chef du gouvernement tchèque Petr Nečas. Un audit de la Commission européenne a en effet suggéré le gel des dotations en raison de la découverte d'irrégularités dans le cadre d'appels d'offres publics lancés par le ministère. D'après le ministre Dobeš, les erreurs en question avaient été commises par ses prédécesseurs. 90% des reproches de la part de la Commission européenne concernent les projets élaborés entre 2008 et 2009, a-t-il indiqué, en pointant du doigt également le ministère des Finances et les régions de Bohême centrale et d'Oustinadlabem. Critiqué notamment par le parti gouvernemental Top 09 et par l'opposition social-démocrate, le ministre de l'Éducation s'est engagé à résoudre le problème d'ici le mois d'avril afin que l'utilisation des fonds européens ne soit pas menacée. Le montant du déficit du budget de l'État s'est élevé en 2011 à 142,8 milliards de couronnes, alors que le ministère des Finances avait prévu un déficit de 135 milliards de couronnes. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, explique ce résultat justement par des problèmes dans le domaine de l'utilisation des fonds européens. Miroslav Kalousek l'a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse. Ouverture ce mardi du procès d'un couple tchèque accusé d'avoir enfermé ses enfants depuis leur naissance, accusé de maltraitance et mis en examen pour abus d'enfants. Les parents de 2 enfants en bas âge, séquestrés chez eux, avaient été placés fin novembre en détention. Les 2 enfants, âgés de 3 ans et de 18 mois, n'avaient jamais été déclarés et jusqu'à la découverte de la police en avril 2010, n'étaient jamais sortis de chez eux, alors qu'ils vivaient en plein centre de Prague. En bonne condition physique, mais souffrant de problèmes psychologiques. Les enfants ont été depuis placés chez leurs grands-parents. Les parents encourent jusqu'à 12 ans de prison. 5,2 millions de personnes ont visité Prague en 2011, un nombre record d'après l'analyse de la société Make Consulting publiée lundi. La plupart des visiteurs de la capitale tchèque, 4,5 millions, venaient de l'étranger. 2011 a donc largement dépassé le dernier record de 2010 qui avait vu quelque 4,7 millions de touristes à Prague d'après l'Office tchèque des statistiques. La société Make Consulting a également enregistré le nombre record de 13,2 millions de séjours en hôtel à Prague l'an dernier. Côté météo, mercredi, jour de la fête des Diana, le temps en République tchèque sera nuageux avec quelques averses dans la moitié est du pays. Les températures restent assez élevées pour la saison, entre 5 et 9 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Il y a 35 ans, a vu le jour le document qui devait entrer dans l'histoire sous le nom de Charte 77. Interview avec la réalisatrice Anne Vilasek, auteure entre autres du téléfilm « I Love » qu'elle a tourné pour la chaîne Arte. Tels sont les thèmes de la première partie de cette émission. La suite sera réservée à la rubrique Panorama, dans le cadre de laquelle Paul Bauer interrogera le pianiste Vojtěch Procházka sur la musique d'avant-garde en République tchèque. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Il y a 35 ans, le 1er janvier 1977, un groupe de dissidents tchèques lançait un document qui allait jouer un rôle clé dans l'évolution politique de la Tchécoslovaquie. Ses auteurs l'ont appelé « Charte 77 ». Les représailles déclenchées contre eux par le régime communiste ont été immédiates et sévères. Le pouvoir arbitraire n'a pourtant pas réussi à étouffer le mouvement libérateur lancé par cette initiative dans la société tchèque, mouvement qui allait aboutir à la chute du régime communiste. Les initiateurs de la charte sont des intellectuels dont le seul dénominateur commun est la conscience de la morale. En décembre 1976, le philosophe Jan Patočka, le diplomate Jiří Hájek, les écrivains Ludvík Vaculík, Pavel Kohout et Václav Havel refusent d'assister passivement à la violation des droits de l'homme dans leur pays et décident d'agir. Parmi les initiateurs et les premiers signataires de la charte, il y a le journaliste Petr Uhl. Pour lui, la charte restera liée avec la personnalité de Václav.
J'ai fait sa connaissance, c'était en 1976, pendant le procès des musiciens de Plastic People of Universe. Et depuis ce mois de septembre 1976, nous sommes devenus amis. Et comme amis, dans une collectivité de quelques personnes, de 6 personnes, 10 maximum, nous avons rédigé le texte de la charte 77, dont Havel était l'auteur principal. Moi, je n'avais que petits changements.
Le dramaturge dissident Václav Havel ne conçoit pas le texte comme un manifeste politique, mais comme un appel au respect des droits de l'homme et au dialogue avec le régime en place. Les autorités sont tout simplement appelées à respecter les traités internationaux sur les droits civiques, politiques et sociaux que la Tchécoslovaquie a signés en 1968 et ratifiés en 1976. C'est en cela, selon l'historien Petr Blažek, que résidait l'astuce des chartistes.
Ils profitaient des possibilités que leur offrait le code juridique de l'époque et cherchaient à respecter absolument ce code afin d'ouvrir un espace pour un dialogue avec le régime. Ils savaient évidemment que ce dialogue était impossible. Leur intention était d'amener le régime dans une situation qui leur permettrait de mettre à l'évidence que ce régime violait ses propres lois et ses propres engagements internationaux.
Bien que la charte 77 soit condamnée par la presse officielle de l'époque, les autorités n'osent pas publier sa version intégrale. Selon le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jaromír Obzina, le texte est écrit d'une manière si astucieuse que s'il était publié, les gens ne comprendraient pas pourquoi il est si dangereux. Les Tchèques n'ont donc la possibilité de connaître le document que grâce aux stations de radio étrangères, dont Europe Libre. La charte est publiée également déjà les 6 et 7 janvier 1977 par les grands quotidiens comme Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times et New York Times. Une grande campagne d'intimidation est lancée par le régime contre les initiateurs et les signataires de la charte. Ils sont poursuivis par la police politique, jugés dans des procès manipulés et souvent condamnés à la prison. Pourtant, le nombre de signataires du document ne cesse d'augmenter. En 1985, ils sont déjà 1200 à avoir signé cet appel, et en 1990, donc juste après la chute du régime communiste, leur nombre atteindra 1900. Mais c'est déjà le moment où nombreux dissidents entrent dans la politique et Václav Havel devient président de la République. Selon Petr Uhl, c'est son engagement dans le mouvement de la charte 77 qui a prédestiné Václav Havel à cette fonction.
C'était à juste titre qu'il était choisi par nous, c'est-à-dire par le forum civique, qui était pratiquement la même chose que la charte 77, où le noyau du forum civique, c'était la charte 77. Puis, les anciens communistes qui ont été expulsés, chassés du parti après 68, c'est-à-dire 69, mais plutôt 70, 71. Alors, eux, ils n'étaient pas organisés. Et la partie la plus précieuse, la plus combative était justement dans la charte, elle aussi, parce que la charte, c'était l'amalgame de plusieurs courants d'orientation, et, etc.
Le mouvement de la charte 77 met un terme à ses activités en 1992. Ses porte-paroles constatent que la charte a perdu sa raison d'être parce qu'elle a atteint son objectif. La réalisatrice Anne Vilasek sera l'invitée cette semaine de Culture sans frontières. Elle parlera notamment de son nouveau téléfilm « Ilaf » qu'elle a tourné pour la chaîne Arte et qu'elle est venue présenter en novembre dernier à Prague dans le cadre du 14e Festival du film français. « Ilaf » est l'histoire de Paul Zachman, professeur de philosophie quinquagénaire incarné par la sublime Anne Consigny, qui, suite à l'échec de son mariage, décidait de s'inscrire sur un site de rencontre. Anne Vilasek nous raconte, au micro de Magdalena Rosinkova, la genèse de son film.
Anne Vilasek, bonjour.
Bonjour.
Votre film « Ilaf » raconte ce que peut vivre une femme intelligente, ravissante, une femme de 50 ans, qui, au début de l'histoire, n'est pas trop sûre d'elle, je trouve, qui est abandonnée par son mari, et qui essaie de trouver un compagnon à travers un site de rencontres amoureuses, un site internet alors. Et ce qui est sympathique, je trouve, sur ce personnage, c'est qu'elle a un sens de l'autodérision, et elle ne se fait pas d'illusions ni sur elle-même ni sur les hommes, et pourtant elle se lance dans cette aventure. Alors comment avez-vous conçu ce personnage? Cherche-t-elle vraiment un compagnon? C'est plutôt un voyage, disons, à la découverte des hommes.
Oui, c'est ça, c'est un voyage à la découverte des hommes et de la vie, et surtout ce que j'ai découvert en écrivant le film, parce que je suis partie sur cette histoire sans rien connaître des sites internet, évidemment, donc pour moi c'était une fiction totale.
Et c'était une découverte aussi.
C'était une découverte aussi, et je me suis beaucoup amusée parce que j'entendais des amis me parler de leur rencontre sur Mythique, et ça me paraissait extraordinaire. Je trouvais d'abord qu'il fallait un courage incroyable pour affronter comme ça des rencontres d'hommes qu'elle ne connaissait pas. Bon, parfois il y a beaucoup de préalables sur internet, mais parfois c'est très rapide, hein, donc les rencontres, donc je trouvais ça incroyablement courageux. Et finalement, je trouve que cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui se découvre elle-même, qui croit chercher un compagnon, et en fin de compte, c'est elle qu'elle découvre. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a paru beau.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle découvre alors?
Elle découvre une femme nouvelle, plus libre. Je pense qu'elle est plus libre à la fin qu'au début. Que tous les coups qu'elle se prend, finalement, ce n'est pas des coups pour rien, parce que c'est des coups où elle découvre jusqu'où elle peut aller. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, donc... Et je trouve qu'à la fin, elle est plus forte et elle a plus de flamme et c'est une femme différente.
Donc vous vous êtes inspiré, disons, de l'expérience, des expériences de vos amis qui ont...
C'est tiré d'une sorte de journal, un journal intime, autobiographique, d'une femme qui a été mon professeur de philosophie il y a 25 ans, quand j'étais étudiante de philosophie. Et c'était un journal très noir, très sombre, mais qui était très intéressant, très riche. Moi, qui m'a fait réfléchir à pourquoi une femme de cette intelligence, de ce milieu, etc., tout d'un coup pouvait plonger comme ça dans l'ivresse des rencontres, l'ivresse des possibles. Et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis projetée dans cette histoire. Et finalement, je pense que c'est moi que j'ai projeté. Enfin, j'ai essayé de m'imaginer dans chacune des rencontres pour voir comment j'allais pouvoir réagir. Et donc Anne Consigny m'a aidée parce qu'on a eu une sorte de proximité. Enfin, on s'est bien compris, je crois, sur le personnage.
Et avec Anne Consigny, c'était un choix évident?
Mais c'est un choix préalable, c'est-à-dire j'ai choisi l'actrice avant d'écrire le scénario. Mmh. J'ai décidé que je ne voulais pas écrire le scénario si je ne savais pas à l'avance qui allait le jouer, parce que c'est difficile d'écrire un scénario, de mettre tout dedans et à la fin de se trouver aux mains d'une actrice qui ne veut pas faire exactement ce qu'on a voulu. Donc j'ai préféré me dire, je vais rencontrer une actrice, je vais lui raconter l'histoire, et si elle est partante, si elle me fait confiance, je vais écrire pour elle en pensant à elle. Et comme Anne avait l'air très partante, j'ai tout le temps pensé à elle, à sa petite silhouette toute fragile de petit oiseau, à son côté très frémissant. Et dans chacune des scènes, ça m'a beaucoup inspirée, ce qu'elle est physiquement et sa grâce particulière. Voilà.
C'était donc la réalisatrice Anne Vilasek, interrogée par Magdalena Hrozinková. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. La culture est l'un des domaines pour lesquels la crise économique ne change que très peu de choses, tant les fonds publics et privés alloués aux activités artistiques en République tchèque sont rares et faibles. Le jazz et la musique expérimentale n'échappent évidemment pas à la règle. Pourtant, malgré ce contexte difficile, une petite scène de musique d'avant-garde fait son apparition à Prague. Le cofondateur et pianiste du célèbre orchestre de jazz tchèque Vertigo, Vojtěch Procházka, dévoile les multiples sources et lieux de son inspiration qui ont donné naissance à son nouveau trio de musique contemporaine.
Panorama.
Panorama.
Vojtěch Procházka, bonjour.
Bonjour, Pauli.
Alors, vous êtes musicien, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je suis musicien de 30 ans, né à Prague. En ce moment, je vis à Oslo, Norvège, où j'ai vécu les dernières 3 ans, à peu près, avec une pause à République tchèque.
Dans quel cadre?
Dans le cadre de musique contemporaine improvisée, venant de jazz.
Ça veut dire que vous êtes passé par le jazz avant d'arriver à la musique contemporaine?
Absolument, je suis même passé de la musique classique. J'ai un entraînement classique de piano. Je suis pianiste et compositeur. Puis j'ai passé au jazz assez traditionnel, puis au jazz moderne, puis jazz expérimental. En ce moment-là, je me sens avoir sorti du jazz complètement.
Donc vous avez joué et vous jouez toujours avec Vertigo. Vous pouvez nous parler de ce groupe?
C'est un groupe qui va fêter 10 ans dans le mois de février. C'est un groupe de gens qui vivent à Prague. Il y a des Slovaques, 3 Slovaques et 3 Tchèques. Puis il y a une belle histoire de 4 CD et une centaine de concerts.
Et comment vous qualifiez la musique que vous jouez avec ce sextet de Vertigo?
Vertigo, ça reste toujours un peu dans le domaine de jazz. Il y a même des morceaux qui ont du swing, quoi, qui ont des solos assez structurés, mais en même temps, on fait un peu de petites aventures dans la musique contemporaine, des choses basées sur les sons plutôt que sur des harmonies, voilà.
Vous vous consacrez désormais à votre trio, Vojtěch Procházka Trio. Comment est née l'idée de ce trio?
Bon, j'ai toujours voulu jouer dans un trio de piano, basse, batterie parce que c'est un modèle qui marche, qui est beau à jouer. Et j'ai toujours eu des petits trios de jazz. Le premier était avec la section rythmique de Vertigo avec Daniel Scholtis et Rastislav Uhrik. Mais ça a vraiment repris dès que je suis arrivé à Oslo. Parce que là, très vite, j'ai rencontré Adrian Mir et Ture Sandbakken, musiciens fantastiques venant de Trondheim. Je les ai rencontrés à Oslo dans un jam session. Et tout de suite, on a trouvé une langue commune. On a commencé comme un trio de jazz moderne, disons, dans le genre de Paul Bley ou Keith Jarrett. Un peu free, un peu écrit. Et on a sorti le premier disque qui est un peu comme ça, des petits morceaux que j'ai écrits, quelques standards peu connus, des choses un peu free. Mais depuis, on a peu à peu changé de direction. Et Aujourd'hui, on fait des concerts qui sont complètement improvisés, qui n'ont pas de structure prévue, et pas de morceaux prévus. Et on a beaucoup travaillé sur le son de groupe qui essaye de partir le plus possible de son traditionnel des instruments et surtout d'un son d'une formation aussi traditionnelle qu'un piano jazz trio quoi.
Donc un trio qui se positionne dans la recherche musicale, dans la recherche du son, de nouvelles structures musicales. Comment êtes-vous arrivé à Oslo?
Après avoir fini mes études ici à Prague, à Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, j'avais aucune idée à quoi faire ici à Prague, donc j'essayais de sortir d'ici. Parce que j'avais le sentiment, j'ai tout essayé. Pour le moment où j'étais musicalement, je ne savais pas quoi faire de plus. J'avais un trio qui marchait un peu. On avait ce Vertigo, j'avais un groupe consacré à la musique de Thelonious Monk, Thelonica, avec lequel on jouait assez fréquemment. Je voulais d'autres choses, d'autres inspirations. Donc j'essaie de... D'abord j'ai fait un concours pour une école aux États-Unis. Mais ils m'ont répondu trop tard. Après ça, j'ai fait le concours au CNSM de Paris, département de jazz, où ils m'ont pris. J'ai passé 2 ans à Paris. Je ne trouvais pas ce que je cherchais vraiment.
La source de votre inspiration n'était pas à Paris
donc. Non, pas tout à fait. J'ai trouvé d'autres choses. J'ai trouvé la musique de l'Inde, du Nord, avec un superbe... prof de musique indienne, Patrick Muttal. Et j'ai trouvé d'autres choses, mais c'était la musique de Norvège qui m'attirait. J'avais des disques de Christian Valumre, de Arve Henriksen, de Trygvesheim à Oslo, qui était absolument fabuleux. Et après ça, j'essaie de trouver des moyens de rester là-bas. Donc, je suis entré dans le concours pour le master de jazz et musique improvisée à Oslo. Et j'ai réussi.
D'accord. Donc, vous étudiez à Oslo la musique improvisée. Est-ce qu'il y a un public, un espace en République tchèque pour la musique que vous jouez?
Si, il y en a, bien sûr. Ça s'ouvre peu à peu. Il n'y a pas vraiment une scène trop large, trop soutenue, trop ouverte. Il y a des petits coins. Il y a le Café Vlessé, il y a Školska, il y a Potrva. Il y a des gens plutôt que des scènes. Oui, il y en a très peu, très mal soutenus.
Soutenu par le ministère, par la ville de Prague.
Oui, il y a très peu d'argent qui vont dans cette direction. J'imagine que c'est assez dur de chercher pour les grants.
Des fonds, des soutiens, des soutiens publics.
Il y a beaucoup de bureaucratie à faire, mais c'est faisable peut-être.
Et si vous comparez avec d'autres villes comme Berlin, Oslo où vous êtes, ou Paris pour la musique que vous jouez?
Bon, c'est très différent. À Paris, les musiciens aussi, ils n'ont pas un grand soutien. Ce qu'ils font, ils font des grandes organisations de musiciens même.
Une forme de fédération, vous voulez dire, ou une grande association qui regroupe
quelques groupes se mettent ensemble et ils louent un local et ils essayent de fonctionner complètement sans soutien de d'État ou de ville. Et à Oslo, il y a le soutien, il est très direct. Donc là-bas, la bureaucratie, elle est très diminuée.
Très souple.
Très souple, oui. Et il est très clair et très simple pour chercher l'argent. soit on les reçoit, soit on les reçoit pas. Il n'y a pas de oui peut-être ou essayer d'appeler celui-là. Donc ça marche. Ça marche et il y a une belle scène là-bas.
Donc à Oslo, il y a un soutien de l'État, un soutien direct et un public aussi, j'imagine.
Oui, ça c'est le plus important parce que ici, quand même, les jeunes gens que je rencontre au conservatoire de jazz
à Prague.
Oui, à Prague, ils ne sont pas trop intéressés aux choses différentes, des choses qu'ils connaissent pas et c'est très peu de curiosité musicale. Sûrement il y en a un public, mais ce qui est le problème ici, c'est le public de jazz et de la musique improvisée, ils ne se croisent pas trop. Donc c'est plutôt des gens qui écoutent de indie et d'électronique, peut-être musique contemporaine, mais ils ne connaissent pas le jazz, ils ne nourrissent pas le public jazz. Donc il y a très peu d'entretien
de relations.
De relations, voilà.
Que le cercle des jazzman et des musiciens contemporains est plutôt. Ce sont deux cercles qui fonctionnent en vase clos.
Voilà. Là-bas, à Oslo, c'est très mélangé. Même les études, on a des projets avec des musiciens classiques, on a des projets avec des musiciens de la musique folklorique. Il y a beaucoup de mélange entre les musiciens et entre le public de divers styles et de divers âges. Ça va prendre du temps sûrement ici à la République tchèque pour élever un public
qui soit sensible à ce type de
à
musique.
Musique avec un grand M, avec tout ce qui est musique, parce que on peut trouver de beau dans tous les différents styles. C'est pas le style qui est important, quoi.
C'était donc le cofondateur et pianiste de l'orchestre de jazz tchèque Vertigo, Vojtěch Procházka. Les propos du pianiste ont été recueillis par Paul Bauer. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur www.radio.cz/fr.